En juin 1848, dans le contexte bouillonnant des révolutions européennes, Prague accueille un congrès slave, une des premières occasions où les nationalités slaves européennes se réunissent pour faire valoir leurs droits. Il y a un seul représentant russe à ce congrès, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de Mikhaïl Bakounine, maître de conférences en philosophie, Jean-Christophe Angot, spécialiste de la pensée et du parcours du célèbre révolutionnaire, a évoqué au micro de Pierre Maignan le séjour pragois de celui qui deviendra plus tard l'un des plus importants théoriciens de l'anarchisme.
Chapitre de l'histoire.
Jean-Christophe Angot, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire qui est Bakounine avant cette année 1848? C'est un jeune homme qui n'est pas encore anarchiste.
Alors non, alors c'est quelqu'un qui, alors d'un point de vue familial, est originaire donc de Russie, de la petite noblesse terrienne russe, qui s'est intéressé très tôt à la philosophie. C'est ce qui l'a poussé, entre autres raisons, à venir en Occident et en Allemagne à partir de 1840. Là, il s'est progressivement ouvert à des questions politiques en fréquentant le milieu jeune hegélien, hein, dans lequel on trouvera aussi des gens comme Marx, comme Engels, etc. Et qui, donc voilà, est devenu progressivement, à partir de la philosophie et en sortant un peu de la philosophie, un révolutionnaire, mais d'abord un révolutionnaire sans cause. Alors c'est quelqu'un qui n'est pas encore anarchiste, hein, Bakounine, on l'associe souvent à l'anarchisme, mais il ne se déclarera lui-même anarchiste qu'en 1867, hein, donc il a 50 ans passés. Et effectivement, c'est les textes dont il entoure son activité en 1848 témoignent, hein, du fait qu'effectivement c'est un révolutionnaire avec une dimension assez romantique, hein, d'ailleurs, attentif à la fois aux questions démocratiques, sociales, mais aussi nationales. C'est plutôt un démocrate révolutionnaire qu'un anarchiste.
Alors c'est un révolutionnaire qui participe tardivement à la révolution de février en France en 1848, et quelques mois après, il se décide à aller participer au congrès des Slaves à Prague, qui se tient en juin 1948. Pourquoi il décide d'aller participer à ce congrès des Slaves, et qu'est-ce que ce congrès ?
Il y a une raison de fond, et puis il y a des raisons de circonstances un peu plus momentanées. Alors effectivement, il participe tardivement à février 1948, et puis à Paris, bon, une fois noyé dans l'effervescence révolutionnaire, il dit bon, il faut que je fasse quelque chose par rapport à la Russie. Donc son but quand même, c'est que quelque chose se passe en Russie. Dans un premier temps, les premiers auxquels il pense, c'est les Polonais, parce que les Polonais à l'époque, précisément, ils sont écartelés entre l'Empire autrichien, la Prusse et la Russie. La Pologne n'a plus d'existence politique, mais en même temps, elle se soulève très régulièrement. Il y a un soulèvement aussi en mars 48 dans la partie prussienne notamment de la Pologne. Et puis les Polonais, quand ils arrivent en Allemagne, dans les régions polonaises de la Prusse, il est arrêté, l'insurrection polonaise, ça se passe pas exactement comme ils avaient prévu, et c'est donc à Breslau, enfin aujourd'hui Wrocław, qu'il apprend que va se tenir à Prague un congrès slave, et lui en fait il est assez nouveau dans ces questions. Et en particulier, du coup il se méprend un peu d'ailleurs sur ce que c'est que ce congrès slave, il se dit ah tiens ça y est c'est le début de la renaissance nationale, alors il a pas tort de ce point de vue-là, des peuples slaves notamment d'Autriche, mais c'est totalement nouveau, alors que c'est pas tout à fait nouveau, il y a eu tout un courant pan-slave dans les années 1830, mais qui n'est plus défendu en 48 que par des partisans de la Russie. Le congrès de Prague, dans l'histoire, disons, du réveil des nationalités slaves, il marque une sorte de transition entre le panslavisme des années 1830 et ce qu'on a pu appeler dans les années 1860 l'austroslavisme. Donc, c'est-à-dire cette fois une prise de conscience de la destinée nationale des peuples slaves, mais de l'Empire autrichien, et puis austro-hongrois. Donc, alors ce congrès slave, initialement, il a été convoqué par les Tchèques. Hein, alors, c'est dans la lignée, disons, du mouvement des nationalités. C'est un mouvement d'assez long, qui d'abord est un mouvement culturel, hein, de revitalisation, si l'on veut, de la langue et de la littérature tchèque, notamment à travers le grand historien František Palacký. Enfin, je m'excuse pour éventuellement la prononciation. Donc, eux, ils convoquent un congrès, alors, initialement, de tous les Slaves de l'Empire d'Autriche, mais finalement, ils invitent aussi tous les autres Slaves. Et donc Bakounine se rend à Prague en ayant finalement une connaissance à peu près nulle du mouvement slave. Les seuls Slaves qu'il connaît, ce sont les Polonais. Et donc ce congrès vise d'une certaine manière à s'inscrire et à faire reconnaître, hein, à s'inscrire donc dans le mouvement de reconnaissance des nationalités, à faire valoir les droits, principalement des Tchèques d'ailleurs, au sein de l'Empire autrichien.
Face à ce panslavisme et à cet austroslavisme, quelles vont être les positions que va défendre Bakounine ?
Dans la mesure où lui, alors, c'est à la fois un démocrate, c'est un russe qui veut agir vers la Russie, son souci est double. D'une part, c'est d'essayer d'atténuer les tensions qui se font très vite jour entre les différents participants représentant différentes nationalités slaves. Donc son souci est d'une part d'unir les Slaves et en même temps aussi de leur faire admettre la légitimité des causes nationales auxquelles ils sont a priori hostiles, hongroises, allemandes, italiennes dans une moindre mesure. Son autre souci, c'est de faire adopter de faire entendre dans ce congrès une voix, disons, un peu démocratique, radicale. Donc on a même des documents, de résolutions qu'il a proposées au congrès, proposant une sorte de fédération slave, accordant une liberté d'organisation intérieure aux différentes nationalités, tout en assurant une forme d'unité politique entre elles. Donc voilà, c'est un peu son double souci, hein. L'unité des Slaves, une voix démocratique, et puis en même temps, si l'on veut, voilà, de les associer à un mouvement d'émancipation européenne.
Et avec quel succès défend-il ses positions? Et comment perçoit-il finalement ces Tchèques? Vous l'avez un petit peu dit, c'est-à-dire qu'il y a ces querelles entre nationalités et des Tchèques qui peut-être se sentent supérieurs quelque part aux autres nationalités slaves et qui sont, certains d'entre eux, prêts à un compromis avec le pouvoir autrichien.
Le succès, il va être extrêmement modéré, hein, c'est-à-dire que Bakounine est relativement seul. Alors, le problème, c'est que les récits qu'il fait de ces épisodes-là sont sujets à caution, parce que c'est dans une confession adressée au tsar après coup, lorsqu'il est emprisonné en Russie, et donc il a le souci de ne dénoncer personne et donc de faire croire qu'il était tout seul et qu'il était un peu isolé. Néanmoins, ses positions sont très très nettement minoritaires au Congrès. Donc, du reste, Bakounine reconnaît lui-même que le Congrès était vide d'idées et absurde, et qu'il s'est terminé dans le néant, hein, dit-il. Voilà. Par rapport aux Tchèques, alors vous avez un assez long passage dans la confession où il, de 1851, où il rend compte, hein, de ce sentiment effectivement de supériorité des Tchèques par rapport au reste des populations slaves de l'Empire. Alors avec des différents degrés, c'est-à-dire qu'il y a la question des rapports avec les Moraves et les Slovaques, hein. Ça préfigure, hein, l'existence de la Tchécoslovaquie ensuite, et puis le rapport avec les autres nationalités, notamment les Croates, etc. Et donc il y a effectivement cette idée selon laquelle, eh bien, les Tchèques, enfin en tout cas les représentants évidemment, hein, de la nationalité tchèque à ce congrès, eh bien, veulent finalement faire prévaloir leurs intérêts en passant un compromis avec la monarchie autrichienne. Ils racontent notamment qu'il leur avait été promis par la monarchie autrichienne que peut-être la capitale de l'Empire serait déplacée de Vienne à Prague, hein, ce qu'il avait eu la naïveté de croire, et qu'un parlement serait installé, en somme, et que l'Empire autrichien serait reconstitué avec un royaume autrichien, un royaume de Bohême et un royaume de Hongrie. Donc il y a cette tentation, disons, chez les Tchèques que repère Bakounine, de faire prévaloir leurs intérêts au détriment des autres Slaves, moyennant en jouant le jeu de la diplomatie et de l'intrigue dynastique avec les Habsbourg. Et pour lui, c'est une voie qui est vouée à l'échec à tout point de vue.
Au moment où s'achève le congrès, il y a une insurrection qui se déclenche à Prague et Bakounine va y participer. Est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle il joue dans cette insurrection?
Alors, on n'a pas beaucoup beaucoup, on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus. Enfin, il y a un élément qui est tout de même assez parlant, c'est que ça fera partie des choses qui seront retenues contre lui lorsqu'il sera condamné à mort en 1851 lors de son procès en Autriche. Mais alors, ce qu'on sait, c'est que lui était a eu vent hein, des préparatifs de l'insurrection. Je crois que c'est le 12 juin 1848, insurrection qui est largement indépendante du congrès slave, qui est fomentée par des ouvriers et des étudiants, et il essaie de les en dissuader hein, en leur disant mais vous allez vous faire ratatiner par les troupes autrichiennes, et attendez un peu, bon. Finalement, donc, ils persistent dans leur projet. Et Bakounine, une fois que l'insurrection est lancée, évidemment, il participe. Voilà. Alors, il y a pris une part très active. Vivement, il était sur les barricades. On peut deviner, vu ce qu'on sait de sa participation à une insurrection ultérieure presque un an après à Dresde, que c'est quelqu'un qui était sans doute très capable en matière d'organisation d'insurrection. Mais on ne peut que supposer. On a peu de témoignages, en fait, là-dessus. Mais disons qu'il a dû apparaître comme une des figures proéminentes de cette insurrection, suffisamment en tout cas pour que ensuite, lorsqu'il fut arrêté à Dresde, puis livré par le royaume de Saxe à l'Autriche en 1850, il soit jugé et condamné pour cette participation à l'insurrection de Prague en juin 1848.
Quels enseignements il tire de cette expérience avec les Slaves? Il écrit quelques mois plus tard cet appel aux Slaves. Est-ce que c'est un texte dans lequel il tire peut-être des conclusions sur cette expérience et dans lequel peut-être il réfléchit à l'articulation entre la question nationale et la question sociale?
Effectivement, mais le bilan du congrès slave, de l'insurrection de Prague et plus généralement des révolutions de 1848, c'est quelque chose qui va se faire en plusieurs étapes chez Bakounine. Dans un premier temps, Bakounine a le souci de maintenir la flamme révolutionnaire devant la multiplication des signes de reflux révolutionnaire. Alors c'est dans ce contexte-là qu'il écrit son appel aux Slaves, donc qu'il rédige à l'automne 1848. Ça lui donne énormément de mal de rédiger cette... C'est quelqu'un qui écrit très facilement, Bakounine, mais là il a énormément de mal à formuler les choses dans cet appel, parce que son but, c'est d'appeler les Slaves à se joindre à la cause révolutionnaire générale, et donc de faire en sorte qu'ils ne se joignent pas à ce qui est identifié alors à la réaction pour écraser les mouvements révolutionnaires en Europe. Dans ce contexte-là, alors on a aujourd'hui tous les manuscrits qui ont accompagné la rédaction de cet appel aux Slaves. On sait que dans un certain nombre de versions antérieures, Bakounine se montrait beaucoup plus agressif, disons, dans sa conception de la révolution et notamment dans la dimension sociale de la révolution. C'est quelque chose qui va disparaître finalement de l'appel finalement publié. Bakounine ne conserve que la dimension à la fois nationale et démocratique de la révolution. Donc elle soucie finalement de maintenir une forme d'unité dans ceux qui peuvent se réclamer de la démocratie, donc de passer sous silence la question sociale et une possible opposition du type bourgeoisie prolétariat, et d'insister sur la désignation de l'ennemi qui est pour lui à l'époque l'Empire d'Autriche. Mais disons que ça c'est une étape dans la pensée de Bakounine sur 48.
À Dresde, il écrit un texte qui s'appelle Appel aux Tchèques au moment où les Autrichiens s'allient aux Russes pour réprimer la révolte hongroise. Et qu'est-ce que contient ce texte, l'appel aux Tchèques?
Bakounine dit voilà, c'est un moment tout à fait révélateur de l'alliance des empires. Et d'autre part, son appel aux Tchèques vise à éviter que les Tchèques ne remettent leur destin entre les mains de la Russie. En disant s'il doit y avoir un soulèvement slave, ça ne doit absolument pas passer par une alliance avec le tsar. Et donc, Tchèque, votre cause n'est ni du côté de l'Empire autrichien, ni du côté de l'Empire russe. Elle est dans l'alliance avec les autres peuples qui se soulèvent et qui représentent à ce moment-là l'esprit révolutionnaire, y compris les Hongrois. Alors c'est évidemment un appel qui est comme... d'ailleurs un peu comme l'appel aux Slaves de l'automne 48, hein, qui est courageux, digne, éloquent, mais qui à l'époque avait très peu de chance de produire un quelconque effet, sauf peut-être sur, disons, les franges démocratiques et socialistes de la population de Bohême.
Au moment où il est arrêté, il préparait une insurrection en Bohême. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qu'il préparait ?
Alors ça, on n'en sait pas grand-chose. Enfin, on a un peu les comptes rendus d'audience. Mais Bakounine était un conspirateur, hein, comme beaucoup de révolutionnaires à l'époque, et donc communiquait d'une manière assez secrète. Alors, en général, lorsqu'on a des informations sur ce qu'il préparait, c'est que ses correspondants n'ont pas été très prudents et ont oublié de détruire les preuves. Mais on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose sur ses préparatifs en Bohême. On sait qu'il avait, voilà, que son plan était en quelque sorte de mettre le feu à la plaine à partir d'une étincelle, pour employer une expression qui est beaucoup plus tardive, hein. Mais de faire commencer une insurrection en Bohême, pour qu'ensuite, pour relancer en quelque sorte un mouvement révolutionnaire en Europe. L'idée de Bakounine à l'époque, c'est que vraiment la cible, c'est l'Autriche, hein, c'est le point commun, disons, à partir du congrès slave de Prague de juin 48, la continuité de son action se définit comme ça. Et bien souvent, Bakounine, notamment à cette époque-là, a des ambitions absolument démesurées par rapport, disons, au nombre de divisions qu'il peut mobiliser, si on veut parler en termes militaires. Combien de personnes étaient impliquées dans son projet de soulèvement, on n'en sait rien. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il y a quelques étudiants tchèques, voilà, qui ont été arrêtés avec lui. Mais bon, parfois, Bakounine a tendance à prendre ses désirs un peu pour des réalités, à penser qu'il va déclencher un énorme mouvement révolutionnaire en moins de deux, bon, ce qui est évidemment un peu chimérique. Il va quand même en prendre de la graine. Ce sera aussi une des leçons peut-être qu'il tirera de 48.